Chapitre 5. L'aveu. Plusieurs années se passèrent encore ainsi. Rien n'avait changé dans la paisible métairie. Comme auparavant, les hêtres murmuraient dans le jardin. Seulement leur feuillage était devenu, on eût dit, encore plus foncé, encore plus épais. Comme auparavant, les murs hospitaliers apparaissaient tout blancs, mais un peu courbés et affaissés. Comme auparavant, on voyait les toitures de paille avec leurs mines sombres, et le chalumeau de Joachim se faisait entendre aux mêmes heures dans l'écurie, à cette différence près que Joachim lui-même, tout vieilli dans son état de palefrenier célibataire, aurait mieux aimé écouter le jeu du panitch aveugle au chalumeau ou au piano indifféremment. Maxime avait encore plus blanchi. Les Popielski n'avaient pas eu d'autres enfants, et pour cette raison, l'aveugle premier-né restait, comme auparavant, le centre autour duquel pivotait toute l'existence de la métairie. Pour lui, la maison s'était refermée dans son cercle étroit, se contentant de sa propre vie tranquille, qu'avoisinait l'existence non moins paisible de la maison du possesseur. De cette façon, Pierre, devenu un jeune homme, avait grandi comme une plante de serre à l'abri des influences brutales du dehors. Comme auparavant, il se donnait au centre d'un immense monde obscur. Au-dessous de lui, autour de lui, partout, régnaient des ténèbres sans fin. Son organisation subtile et fine se soulevait comme une corde tendue à l'excès à la rencontre de chaque impression sonore. Cette attente aiguë se reflétait dans l'âme du jeune aveugle. Il lui semblait que d'un moment à l'autre, ces ténèbres allaient tendre vers lui leurs mains invisibles et toucher en son âme quelque chose qui sommeillait d'une façon si accablante et qui attendait le réveil. Mais les bonnes et uniformes ténèbres de la métairie, avec le murmure ami du vieux jardin, ne faisait que le plonger dans une rêverie confuse et apaisante qui le berçait. Le monde lointain ne faisait pas irruption par ses vagues tumultueuses. L'aveugle le connaissait par les chansons, par l'histoire. Au milieu du murmure rêveur du jardin, au milieu de la paisible vie journalière de la métairie, il n'apprenait que par ouï-dire l'existence des tempêtes et les émotions de la lointaine vie extérieure. Et tout cela se dessinait devant lui à travers une gaze féerique, comme une chanson, une légende, un conte. Il semblait que ce fût bien ainsi. La mère voyait que, protégée comme par un mur, l'âme de son fils restait assoupie dans une sorte de demi-sommeil enchanteur, artificiel mais paisible, et elle ne voulait pas troubler cet équilibre, elle craignait de le rompre. Évelyne, qui avait grandi et qui s'était formée sans la moindre secousse, regardait ce calme enchanté de ses yeux clairs, dans lesquels on pouvait, de temps en temps, apercevoir quelque chose comme une stupéfaction, une question sur l'avenir, mais sans jamais l'ombre même d'une impatience. Popielski, père, tenait son domaine dans un ordre parfait. Mais le bonhomme ne s'occupait certes pas le moins du monde des questions concernant l'avenir de son fils. Maxime était le seul qui, à cause de son naturel, supportait avec peine ce calme, et encore comme quelque chose de temporaire qui entrait contre son gré dans ses plans. Il trouvait nécessaire de donner à l'âme de l'adolescent la possibilité de se reposer pour la mettre en état d'affronter les rudes choses de la vie. Pendant ce temps, là-bas, par-delà la limite de ce cercle enchanté, la vie bouillonnait, s'agitait, bruissait. Et voilà qu'enfin arriva le moment où le vieux précepteur décida de rompre ce cercle, d'ouvrir la porte de la serre, pour laisser entrer une fraîche bouffée de l'air extérieur. Pour le premier essai, il invita un vieil ami à lui qui habitait à 70 verstes de la métairie de Popievski. Maxime avait l'habitude d'aller le voir de temps en temps, mais il savait que Stavroutchenko avait maintenant des jeunes gens en visite chez lui et lui écrivit une lettre pour inviter toute la compagnie. Cette invitation fut acceptée avec plaisir. Les deux vieillards étaient liés par une ancienne amitié et les jeunes gens connaissaient le nom autrefois assez célèbre de Maxime Yatsenko, lequel se rattachait certaines légendes. Un des fils de Savrouchenko était étudiant à l'université de Kiev pour la philologie alors à la mode. L'autre apprenait la musique au conservatoire de Pétersbourg. Avec eux arriva encore un élève de l'école des cadets, fils d'un des propriétaires du voisinage. Savrouchenko était un robuste vieillard, tout blanc, avec une longue moustache de cosaque et de larges braises à la turque. Il portait sa blague à tabac et sa courte pipe attachées à sa ceinture, ne parlait que l'idiome petit russien, et à côté de ces deux garçons vêtus de souquenilles blanches et de chemises brodées à la mode du pays, il rappelait beaucoup le Taras Bulba de Gogol avec ses fils. Cependant, il n'offrait même pas l'ombre du romantisme qui distinguait le héros de Gogol. Il était au contraire un excellent et pratique propriétaire qui s'était pendant toute sa vie accommodé à merveille du servage et qui à présent, le servage une fois aboli, avait su s'accommoder tout aussi bien des conditions nouvelles. Il connaissait le peuple à la manière des propriétaires, c'est-à-dire qu'il connaissait chaque moudjik de son village, chaque vache de ce paysan et presque chaque rouble superflu de sa bourse. Mais en revanche, il n'échangeait pas des coups de poing avec son fils comme le faisait Bulba. Non, c'était entre eux continuellement des détails pique-furieux qui n'empêchaient ni l'heure ni l'endroit. Partout, à la maison, aussi bien que chez les amis, sous les prétextes les plus futiles, s'élevaient entre le vieillard et les jeunes gens des discussions interminables provoqué le plus habituellement par la taquinerie de Stravouchenko, qui se mettait à agacer en plaisantant les paniches idéologues. Ceux-ci s'échauffaient, leur père aussi, et c'était alors un tumulte inimaginable pendant lequel chaque parti recevait son compte. C'était comme un reflet du fameux dissentiment des pères et des fils. Seulement, dans le sud-ouest de la Russie, ce phénomène se traduit au sein des familles sous une forme atténuée par celui d'une plus grande douceur dans les mœurs. Les jeunes gens, placés de leur enfance dans des écoles, ne voyaient la campagne que pendant la courte période des vacances, et pour cette raison ils n'avaient pas cette connaissance approfondie des paysans qui distinguait leurs pères, les propriétaires. Et quand la société fut envahie par le flot de l'amour pour le peuple, qui trouva les jeunes gens dans les classes supérieures des gymnases, ils se mirent à étudier le paysan de chez eux. Mais, de prime abord, ils l'étudièrent dans les livres. Le second pas les amena à l'étude immédiate des manifestations de l'esprit du peuple dans les œuvres de son génie créateur. Les panitch en souquenilles blanches et en chemises brodées ne faisaient ainsi que suivre un usage très répandu dans le sud-ouest. Quant aux conditions économiques, on n'y prêtait pas grande attention. Les paniches inscrivaient les paroles et la musique des rêveries et des chansons rustiques, étudiaient les légendes, comparaient les faits historiques avec la forme sous laquelle ils sont reflétés dans la tradition populaire, et en général regardaient le paysan à travers un prisme poétique et idéal. Ainsi, dans les discussions du vieillard avec les jeunes gens, se heurtaient deux sentiments tout à fait opposés, et ils ne parvenaient jamais à tomber d'accord sur un point quelconque. Il arrivait du reste fréquemment que le vieillard s'oubliât lui-même à écouter les paroles enfiévrées de ses fils. « Mais écoutez-le donc !» disait Stravroutchenko à Maxime en lui poussant le coude d'un air malin, quand l'étudiant pérorait, le visage enflammé, les yeux brillants. « Tiens !» Il parle comme s'il écrivait, ce fils de chien. On se croirait vraiment en présence d'un savant. Raconte-nous donc un peu, tête érudite que tu es, Le tour que t'as joué, mon Yelchipor, hein? Le vieillard tortillait sa moustache et riait en vantant le tour en question avec un véritable humour petit russien. Les jeunes gens rougissaient, mais de leur côté, ils ne demeuraient pas en reste. « Oh, s'ils ne connaissent pas, disaient-ils, Yelchipor et Khvetko, habitants de tel ou tel village, ils étudient en revanche le peuple entier dans toutes ces manifestations. Ils envisagent cette question d'un point de vue beaucoup plus élevé. Seule condition à laquelle il soit possible de tirer des conclusions et de faire de larges déductions. D'un seul coup d'œil, ils embrassent des perspectives éloignées, tandis que les vieux praticiens, enfermés dans la routine, ne voient pas toute la forêt à cause des arbres qui la leur cachent. Le vieillard n'écoutait pas avec déplaisir les discours savants de ses fils. « Mais on voit que vous avez un peu profité de vos écoles. Et tout de même, je vous dirais que mon Velko vous escamotera tous les deux, vous mènera à sa guise comme des veaux au bout d'une corde. Voilà ce que c'est. Mais moi, non, je serai moi-même demain dans ma blague à tabac ou la cacher dans ma poche. Vous, vous n'êtes encore que des blancs-becs, mes petits. » Une discussion de ce genre venait justement de prendre fin. La génération aînée s'était retirée dans la maison, et à travers les fenêtres ouvertes, on pouvait entendre de temps en temps Stravouchenko qui racontait solennellement différents épisodes comiques, tandis que ses auditeurs riaient de bon cœur. Les jeunes gens étaient demeurés au jardin. L'étudiant, ayant posé par terre sa souquenille et retroussé les bords de son bonnet d'astrakhan, s'était couché sur l'herbe avec un sans-gêne quelque peu prétentieux. Son frère aîné était resté assis sur un remblai de terre à côté d'Evelyne. Le cadet, son uniforme soigneusement boutonné, était près de lui, tandis qu'à quelques pas, un peu de côté, accoudé contre l'appui de la fenêtre, se tenait la tête penchée le jeune aveugle. Il réfléchissait à la discussion qui venait de finir, discussion qu'il avait profondément émue. « Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui s'est dit, mademoiselle Evelyne ?» dit à sa voisine le jeune Stravouchenko. « Il me semble que vous n'en avez pas perdu une seule parole. » « Oui, tout cela est très bien, c'est-à-dire ce que vous avez dit à votre père, mais... »« Mais quoi donc ?» La jeune fille ne répondit pas de suite. Elle posa son ouvrage sur ses genoux, le lissa de ses mains et, la tête légèrement penchée, se mit à l'examiner d'un air pensif. Il était difficile de distinguer si elle songeait à choisir un canevas plus fort pour sa broderie ou bien si elle mûrissait ce qu'elle allait dire. Et cependant, les jeunes gens attendaient avec impatience cette réponse. L'étudiant s'accouda et tourna vers Evelyne, son visage animé par la curiosité. Son voisin fixa sur elle un regard tranquille et scrutateur. L'aveugle avait changé de position, se redressant et allongeant la tête après s'être détourné des autres interlocuteurs. « Mais, » prononça-t-elle doucement, tout en continuant à caresser de la main sa broderie, « chacun, messieurs, suit son chemin dans la vie. »« Mon Dieu !» s'écria l'étudiant d'un ton sec et tranchant. « Quelle sagesse ! Mais ma petite demoiselle, quel âge avez-vous donc ?»« 17 ans, » répondit simplement Evelyne. Mais elle ajouta immédiatement, avec une curiosité naïvement triomphante, « N'est-ce pas ? Vous m'avez cru beaucoup plus âgé. » Les jeunes gens se mirent à rire. « Oh, si on m'avait demandé mon opinion sur votre âge, » dit son voisin, « j'aurais fortement hésité entre 13 ou 23 ans. Des fois, je vous assure, vous avez l'air d'une toute petite fille, ce qui ne vous empêche pas de raisonner parfois comme une intelligente femme d'âge mûr. » « Dans les affaires sérieuses, Gavrilo Pietrovitch, il faut raisonner sérieusement, » prononça la jeune fille d'un ton doctoral en se remettant à son ouvrage. Tout le monde se tut pour un instant. L'aiguille d'Eveline courait de nouveau en mesure sur la broderie, et les jeunes gens examinaient avec curiosité la figure mignonne de cette personne si sensée. Évelyne avait certainement beaucoup grandi et gagné depuis sa première rencontre avec Pierre, mais l'observation de l'étudiante sur son âge était complètement juste. Au premier regard que l'on jetait sur cette petite et maigre créature, on la prenait pour une fillette. Mais dans ses mouvements lents et mesurés, se manifestait tout le sérieux d'une femme. La même impression était produite par son visage. Je crois qu'il n'y a que les Slaves pour avoir des visages pareils. Les traits, réguliers et jolis, sont dessinés par des lignes froides et correctes. Les yeux bleus regardent tranquillement, posément. Les couleurs animent rarement ses joues pâles, mais ce n'est point une pâleur normale, toujours prête à s'allumer à la flamme d'une passion ardente. C'est plutôt la blancheur glacée de la neige. Les cheveux droits et longs d'Evelyne se relevaient à peine sur ses tempes de marbre et retombaient en une tresse lourde qui semblait tirer en arrière sa tête pendant la marche. Pietro Stalu aussi avait grandi, était devenu plus viril. Qui l'eût vu en ce moment, un peu à l'écart, pâle, ému et réellement beau, eût été immédiatement frappé par ce visage singulier où se reflétait si vivement chaque mouvement de l'âme. Son front bombé, encadré de belles boucles noires, était couvert de petites rides précoces. Des couleurs enflammaient subitement ses joues, et non moins subitement faisaient place à une pâleur mate. Sa lèvre inférieure, dont les coins s'abaissaient à peine, était de temps à autre secouée par un tremblement, et ses grands beaux yeux, qui regardaient d'un regard égal et fixe, donnaient au visage du jeune homme une nuance sombre qui n'était pas très naturelle. « Ainsi, reprit l'étudiant d'un air moqueur après un moment de silence, Mademoiselle Evelyne suppose que tout ce que nous avons dit est inaccessible à l'esprit féminin, que le sort de la femme est confiné dans la sphère étroite de la chambre et de la cuisine ?» Dans la voix du jeune homme éclatait une ironie provocante. Pendant quelques secondes, tout le monde se tut, et le visage de la jeune fille se colora d'un vif incarnat. « Vous vous hâtez trop de tirer vos conclusions, » dit-elle. « Oh, je comprends tout ce que vous avez dit. Par conséquent, c'est accessible à l'esprit féminin. Non, je ne parlais que de moi, personnellement. » Elle se tut et se pencha sur son ouvrage avec tant d'attention que le jeune homme n'eut pas le courage de pousser plus loin l'interrogatoire. « C'est étrange, » murmura-t-il. « On pourrait penser que vous avez déjà arrêté le plan de toute votre existence. » Jusqu'à la tombe même. Mais qu'y a-t-il donc là d'étrange, Gavrilo Pietrovitch ? Répartit doucement la jeune fille. Je gage qu'il y a Ivanovitch lui-même. C'était le nom du cadet. C'est déjà tracé sa vie, et cependant, il est plus jeune que moi. C'est vrai, dit le cadet, fier de pouvoir intervenir dans la conversation. Je viens de lire la biographie d'un homme qui agissait toujours selon un plan défini. À 20 ans, il se mariait, à 25, il commandait un détachement. L'étudiant se mit à rire avec malice. La jeune fille rougit légèrement. « Eh bien, vous voyez, dit-elle au bout d'un instant, avec une âpreté froide dans la voix, à chacun son chemin. » Personne ne souleva plus d'objection. Un calme sérieux régna au milieu de la jeune compagnie, ce calme sous lequel se devine si clairement une sorte de perplexité. Tout le monde comprenait, confusément, que la conversation tombait sur un terrain délicat et personne qu'au-dessous des simples paroles qui étaient prononcées résonnait quelque part une corde tendue à vibrer. Et durant ce silence, on n'entendait plus distinctement que le murmure du vieux jardin qui venait de plus en plus sombre à mesure que la nuit venait. Toutes ces conversations, ces discussions, ces afflux de questions brûlantes, d'attentes et de doutes, tout cela fait irruption dans l'esprit de l'aveugle avec une violence fougueuse et inattendue. D'abord, il écoutait avec une expression de transport étonné, mais bientôt il lui fut impossible de ne pas s'apercevoir que tout ce flot roulait plus loin sans s'inquiéter de lui. On ne lui adressait pas de questions, on ne lui demandait pas son avis, et bientôt il devint évident qu'il demeurait tout à fait à part, dans un triste isolement, d'autant plus triste que la vie de la métairie était maintenant devenue plus bruyante. Malgré cela, il continuait à écouter avec soin toutes ces choses si nouvelles pour lui, et ses sourcils, fortement rapprochés, son visage pâli, révélaient une attention extrême. Mais cette attention avait quelque chose de sombre. Elle cachait un pénible et amer travail de la pensée. La mère regardait son fils avec une tristesse dans les yeux. Ce Devlin exprimait la compassion et l'inquiétude. Maxime seul ne remarquait pas, semblait-il, l'effet que cette société bruyante produisait sur l'aveugle. Et il priait cordialement ses invités de revenir aussi souvent qu'ils le pourraient à la métairie, en promettant aux jeunes gens d'abondants matériaux ethnographiques pour leur prochaine visite. Les invités promirent de revenir et partir. En prenant congé, les jeunes gens serrèrent vigoureusement les mains de Pierre. Il répondit avec impétuosité à leur poignée de main et écouta pendant longtemps le bruit produit sur la route par les roues de leur équipage. Puis il se retourna brusquement et il s'en alla dans le jardin. Après le départ des invités, tout s'apaisa dans la maison. Mais ce calme parut à l'aveugle quelque peu insolite et étrange. Il semblait avoir la conscience que quelque chose de particulièrement important venait de se passer. Dans les allées redevenues silencieuses, sans autre bruit que le murmure causé par le vent dans les hêtres et les lilas, l'aveugle croyait percevoir l'écho des conversations récentes. Il entendait aussi, à travers la fenêtre ouverte, sa mère et Evelyne qui discutaient avec Maxime dans le salon. Il remarqua dans la voix de sa mère une expression de prière et de souffrance. Celle d'Evelyne trahissait l'indignation et Maxime paraissait soutenir avec ardeur et sans plier l'attaque des deux femmes. À l'approche de Pierre, la conversation tomba immédiatement. Maxime, en connaissance de cause, avait ouvert une brèche d'une main implacable dans le mur qui entourait jusqu'alors le monde de l'aveugle. La première vague bruyante et agitée avait déjà fait éruption à travers la brèche et l'équilibre psychique du jeune homme vibrait sous l'influence de ce premier coup. À présent, son cercle enchanté lui paraissait déjà étroit. Le calme de la métairie, le murmure et le frôlement paresseux du vieux jardin commençaient à lui peser. L'obscurité se mit à lui parler de nouveau, par des voix nouvelles et séduisantes, vacillant devant lui, le pressant dans l'attente anxieuse d'une prestigieuse animation. Elle l'appelait, l'attirait, éveillait les questions qui sommeillaient au fond de son cœur, et déjà ses premiers appels se traduisait sur son visage par une pâleur et dans son âme par une souffrance pénible, quoique encore confuse. Ces symptômes inquiétants n'échappèrent pas aux deux femmes. Elles voyaient que Maxime les remarquait aussi, mais que tout cela entrait dans les desseins du vieillard, qu'elles ignoraient. Toutes les deux le taxaient de cruauté, et la mère aurait voulu faire de ses mains un rempart à son fils contre les souffles de la vie qu'il agitait. Une serre, eh bien, qu'importe, puisque jusqu'ici son enfant s'est trouvé bien dans la serre, qu'il en soit de même à l'avenir. Évelyne ne disait pas évidemment tout ce qu'elle avait sur le cœur, mais depuis quelque temps, elle commençait à s'élever contre certaines propositions de Maxime, parfois complètement insignifiantes, avec une âpreté sans précédent. Le vieillard la regardait de dessous ses sourcils, avec des yeux scrutateurs, qui rencontrait parfois les yeux étincelants et irrités de la jeune fille. Maxime secouait la tête, murmurait quelque chose, et s'entourait d'épais nuages de fumée, ce qui chez lui dénotait un grand travail de pensée. Mais il tenait bon, et de temps en temps, sans s'adresser à personne en particulier, il émettait des opinions assez dédaigneuses sur le cœur féminin, s'il est raisonnable, sur l'intelligence des femmes qui commençaient beaucoup plus courtes qu'un cheveu et qui les empêchent de rien voir au-delà de la souffrance ou de la joie du moment. « Couveuse !» disait-il parfois à sa sœur, en frappant d'un air irrité le parquet avec ses béquilles. Mais il se fâchait rarement. La plupart du temps, il combattait les raisonnements de sa sœur, doucement, avec une compassion condescendante, d'autant plus que chaque fois qu'ils discutaient, elle lui cédait quand elle était seule avec son frère. Ce qui ne l'empêchait pas, d'ailleurs, de revenir toujours sur le même sujet. Et quand Evelyne était présente, l'affaire devenait plus sérieuse, et dans ce cas, le vieillard préférait se taire. Il semblait qu'une lutte fût imminente entre lui et la jeune fille, et que chacun se borna pour l'instant à étudier son adversaire en cachant soigneusement son jeu. Quand 2 semaines plus tard, les jeunes gens revinrent avec leur père, Evelyne les accueillit avec une froide réserve. Cependant, elle avait de la peine à tenir bon contre leur jeune, leur ardente animation. Durant des journées entières, les jeunes gens parcouraient le village, chassaient, recueillaient dans les champs les chansons des moissonneurs, et le soir venu, toute la compagnie se rassemblait sur la terrasse de la maison. Par une de ces soirées, et avant qu'Evelyne n'eût eu le temps de s'en apercevoir, la conversation tomba de nouveau sur des sujets délicats. Comment cela arriva-t-il? Qui commença le premier? Ni elle ni personne n'aurait pu le dire. C'était arrivé insensiblement, comme s'était éteint le crépuscule, comme étaient venues les ombres vespérales qui rampaient dans le jardin, comme le rossignol avait entamé dans le buisson sa chanson du soir. Le jeune étudiant parlait fougueusement, avec cette passion particulière de la jeunesse, qui, sans compter ni raisonner, se jette au devant de l'avenir inconnu avec un fier défi. Il y avait dans cette foi et dans cette passion une force spéciale et charmeuse, presque une puissance d'appel invincible. La jeune fille rougit brusquement, ayant compris que ce défi s'adressait maintenant, peut-être sans intention préconçue, à elle directement. Elle écoutait, la tête baissée sur son ouvrage. Ses yeux commencèrent à étinceler, son visage se colorait, son cœur palpitait. Puis l'éclat de ses regards s'éteignit, elle pâlit, ses lèvres se serrèrent, son cœur se mit à battre encore plus fort, et sur son visage apparut une expression de frayeur. Elle eut très peur, car sous l'influence des discours de l'étudiant, il lui semblait que devant ses yeux se fendait tout à coup un sombre mur, et qu'à travers cette fissure apparaissaient resplendissantes les lointaines perspectives d'un monde bouillonnant, vaste et actif. Oui, depuis longtemps déjà, ce monde l'appelait. Mais elle ne s'en apercevait pas auparavant. Dans l'ombre du vieux jardin, sur un banc écarté, elle restait souvent assise pendant des heures entières, tout à ses rêves irréalisables. Son imagination lui retraçait les tableaux vifs et lointains, et dans ces tableaux, il n'y avait pas de place pour l'aveugle. À présent, ce monde s'approchait d'elle. Non seulement il l'appelait, mais il s'arrogeait un droit sur elle. Elle jeta un regard furtif du côté de Pietruccia, et quelque chose lui poignit le cœur. Il était assis, immobile, pensif. Toute sa figure semblait s'être affaissée, et lui resta dans la mémoire sous la forme d'une tache sombre. mais il comprend tout. Cette idée traversa la tête de la jeune fille comme un éclair et la glaça. Tout son sang lui reflua au cœur et elle sentit elle-même son visage se couvrir d'une pâleur mortelle. Elle s'imagina pour un instant qu'elle était déjà là-bas dans ce monde lointain et ardent et que lui demeurait ici assis, la tête penchée, seul. Ou bien non, non, il était là, sur la petite colline, près de la rivière, ce garçon aveugle avec qui elle avait pleuré un soir. Elle eut peur, il lui sembla que quelqu'un se préparait à arracher le couteau de son ancienne blessure. Elle se souvint des regards prolongés de Maxime. Voilà donc ce que signifiaient ces regards taciturnes. Il connaissait sa nature mieux qu'elle-même. Il avait deviné que dans son cœur la lutte et le choix étaient possibles, et qu'elle n'était pas encore bien sûre d'elle-même. Mais non, il se trompe. Elle a fait le premier pas, et plus tard elle verra ce qui lui sera possible de prendre la vie. Elle soupira profondément, douloureusement, comme en reprenant haleine, après un travail pénible, et jeta un regard autour d'elle. Elle n'aurait pas pu dire combien avait duré le silence, s'il y avait longtemps que l'étudiant s'était tu ou s'il parlait encore. Elle jeta un regard là où une minute avant Pierre se trouvait assis. Il n'était plus là. Alors, ayant tranquillement posé son ouvrage, elle se leva aussi. « Excusez-moi, messieurs, » fit-elle en s'adressant aux invités, « je vous laisse un instant seul. » Et elle se dirigea vers l'allée longue et ombreuse. Cette soirée était pleine d'agitation, mais non pas pour Evelyne seule. Au tournant de l'allée où se trouvait un banc, la jeune fille entendit des voix animées. Maxime causait avec sa sœur. « Oui, je ne songeais pas moins à elle qu'à lui, » disait le vieillard d'un ton sévère. « Pense donc, mais elle est encore qu'une enfant ignorante de la vie. Je ne puis croire que tu aies voulu profiter de l'ignorance d'une enfant. » Dans la voix d'Anna Mikhailovna, quand elle répondit, des larmes tremblaient. « Mais alors quoi, Maxime, si elle... Mais qu'adviendra-t-il donc de mon fils ?» Arrive que pourra, répondit durement le vieux soldat. Alors nous verrons. En tout cas, il ne doit pas avoir le remords d'avoir brisé la vie d'une autre personne. Et ce remords serait le nôtre aussi. Pense-y donc, Anna, ajouta-t-il plus doucement. Le vieillard prit la main de sa sœur et y déposa un tendre baiser. Anna Mikhailovna baissa la tête. Mon pauvre enfant. La jeune fille devina plutôt ces paroles qu'elle ne les entendit, si faible était le soupir échappé aux lèvres de la mère. Une rougeur envahit le visage d'Evelyne. Malgré elle, elle s'arrêta au tournant de l'allée. Maintenant, si elle se montrait, tous les deux verraient qu'elle avait surpris leurs pensées secrètes. Mais au bout de quelques instants, elle leva fièrement la tête. Elle ne voulait pas rester aux écoutes, et en tout cas ce n'était pas une fausse honte qui pourrait l'arrêter dans son chemin. Et puis ce vieillard s'avançait un peu trop. Elle serait bien disposée elle-même de sa vie. Elle apparut au tournant de l'allée et passa près des deux interlocuteurs, tranquillement, la tête haute. Maxime retira involontairement sa béquille pour lui livrer passage, et Anna Mikhailovna la regarda avec une expression d'amour contenu, d'adoration, presque d'effroi. La mère sentait, eût-on dit, que cette fière et blonde jeune fille, qui venait de passer avec cet air courroucé et hautain, portait en elle le bonheur ou le malheur de son enfant. Il y avait dans le jardin un vieux moulin abandonné. Ses roues ne tournaient plus depuis longtemps, ses solives étaient vertes de mousse, et à travers les anciennes écluses, l'eau suintait en petites gouttelettes qui tombaient sans discontinuer. C'était le refuge favori de Pietruscia, qui passait là de longs instants, accoudé au parapet de la digue, et écoutant avec attention les voix de l'eau qui filtraient, voix qu'il avait excellemment traduites au piano. Mais dans ce moment, il n'avait nulle envie de s'y arrêter. Il marchait d'un pas rapide le long du petit sentier, le cœur débordant d'amertume, le visage crispé par une douleur intérieure. Ayant ouï les pas de la jeune fille, il s'arrêta. Évelyne lui posa la main sur l'épaule et lui demanda sérieusement « Dis-moi, Pierre, qu'est-ce que tu as donc ? Pourquoi es-tu si triste ?» Il se détourna vivement et se mit à marcher à grands pas dans le sentier. La jeune fille le suivit. Elle avait compris son mouvement brusque et son silence et baissait la tête. On entendait l'air d'une chanson venant du côté de la ferme. Adoucie par la distance, une voix jeune et forte chantait la tendresse et le bonheur, et les sons résonnaient dans le calme de la nuit, dominant le doux murmure du jardin. Là-bas, des gens heureux parlaient d'une vie active et pleine. Il y avait quelques minutes à peine, elle se trouvait au milieu d'eux, enivrée des rêves de cette vie dans laquelle il n'y avait pas de place pour lui. Elle n'avait même pas remarqué son départ. Et lui, qui sait combien ces moments de chagrin isolés lui avaient paru longs. Ses pensées traversaient la tête de la jeune fille pendant qu'elle marchait à côté de Pierre dans l'allée. Jamais encore elle n'avait eu tant de peine à entamer la conversation avec lui, à se rendre maîtresse de son humeur. Cependant, elle sentait que sa présence adoucissait peu à peu les sombres pensées de l'aveugle. Et en effet, sa démarche était devenue très lente, son visage plus tranquille. Il entendait à côté de lui les pas de son amie, et peu à peu, la douleur aiguë de son âme se calmait, faisant place à un autre sentiment. Il ne se rendait pas compte de ce sentiment, mais il ne lui était pas inconnu, et il s'abandonnait volontiers à son influence bienfaisante. « Qu'as-tu, Pierre ? » répétait-elle. « Oh, rien de particulier, » répondit-il avec amertume. « Cependant, il me semble que je suis de trop dans le monde. » La voix qui chantait près de la maison se tut, et un instant après résonna de nouveau pour une autre chanson. On l'entendait à peine. Elle fredonnait une ancienne rêverie en imitant le chant si doux des joueurs de bandoura. De temps en temps, il semblait qu'elle s'éteignît complètement. Un silence régnait pendant lequel un rêve indécis berçait l'imagination, puis de suaves mélodies traversaient de nouveau le murmure du feuillage. Le jeune aveugle s'arrêta involontairement et se mit à écouter. « Oui, » fit-il tristement, « il me semble que les vieux ont raison de dire qu'avec le temps, les choses vont de mal en pis. Jadis, les aveugles eux-mêmes étaient plus heureux. Au lieu du piano, j'aurais appris à jouer de la bandoura. J'irais dans les villes et les villages. Des foules d'hommes viendraient de tous côtés. Je leur chanterais les exploits de leurs pères, leurs hauts faits, leur gloire. Alors moi aussi, j'aurais été quelque chose dans la vie. Et à présent, même ce petit cadet avec sa voix aiguë, même celui-là, tu l'as entendu parler de se marier et de commander un détachement. On s'est moqué de lui, mais à moi-même, cela ne m'est pas permis. » Les yeux bleus de la jeune fille s'ouvrirent tout grands et frayeurs. Une larme y brilla. « Mais c'est la conséquence des discours de l'étudiant que tu as trop écouté, » fit-elle d'un air confus, en essayant de donner à sa voix le ton d'une plaisanterie insouciante. « Oui, » répondit Pierre d'un air pensif, « mais quel excellent jeune homme, et quelle agréable voix que la sienne. « Oui, c'est vrai, » appuya Evelyne d'un air songeur et presque avec tendresse. Mais tout à coup, comme se ravisant, elle ajouta avec colère, « Oh non, il ne me plaît pas. Il a trop de confiance en lui-même. Et sa voix est désagréable et suraiguë. Pietruccia écouta avec étonnement cette sortie courroucée. La jeune fille frappa du pied et continua. Et puis tout cela, ce sont des sottises. Tout cela a été imaginé, je le sais, par l'oncle Maxime. Oh, comme je le hais à présent, ce Maxime. Mais que dis-tu là, Evelyne? Demanda l'aveugle. En quoi Maxime est-il donc coupable? Oh, lui aussi se croit fort intelligent, et à cause de cela, et à part ses calculs, tu es en lui toute sensibilité. Oh, ne parle pas, ne parle pas d'eux. Et d'où vient qu'ils se sont arrogés le droit de disposer du sang d'autrui? Elle s'arrêta soudain, serra ses petites mains si fort que ses doigts en craquèrent. Elle se mit à pleurer avec une moue enfantine. L'aveugle lui prit la main avec étonnement et compassion. Cette sortie d'une jeune fille, jusqu'alors si tranquille et si posée, était tellement inattendue et inexplicable. Il écoutait en même temps et ses pleurs et l'écho étrange que ses pleurs provoquaient dans son propre cœur. Mais tout à coup, elle dégagea sa main et l'aveugle eut une nouvelle surprise. La jeune fille riait. Ah, que je suis donc bête! Et pourquoi donc est-ce que je pleure? Elle essuya ses yeux et se mit à parler d'une bonne voix émue. Non, il faut être juste. Tous deux sont d'honnêtes, d'excellentes gens. Et ce qu'il a dit tout à l'heure était très bien. Mais est-ce que c'est applicable à tous? Mais à tous ceux qui le peuvent, s'écria sourdement l'aveugle. Mais quelle sottise, répondit-elle d'une voix claire, mais où tremblait encore dans un sourire les larmes de tout à l'heure. Même Maxime, lui aussi, n'a guerroyé, n'est-ce pas, que tant qu'il l'a pu, et à présent il vit comme il peut. Eh bien, nous aussi. Non, ne dis pas nous. Toi, c'est tout à fait d'autre chose. Mais non, pas autre chose. Pourquoi? Ben parce que, eh bien, mais puisque tu dois te marier avec moi, nous aurons, n'est-ce pas, la même vie? L'aveugle s'arrêta, étonné. Moi, avec toi? Alors, tu dois te marier avec... mais oui, certainement, répondit-elle vivement avec émotion. Mais que tu es bête! Est-il possible que cette idée ne te soit jamais venue? Mais c'est une chose si simple. Avec qui donc te marierais-tu si ce n'est avec moi? Certainement, acquiesça-t-il avec un égoïsme étrange, puis se ravisant immédiatement. Écoute, Evelyne, dit-il en la prenant par la main. Là-bas, on vient de dire que dans les grandes villes, les jeunes filles apprennent tout. Devant toi aussi, une large voie aurait pu s'ouvrir. Tandis que moi, je suis... Mais qu'es-tu donc, toi? Mais tandis que moi, je suis aveugle, acheva-t-il. La jeune fille sourit, mais elle reprit elle-même sur le même ton. Mais qu'importe que tu sois aveugle? Est-ce que si une jeune fille sait prendre un aveugle, elle ne se marie pas avec lui? Mais puisqu'il en est toujours ainsi, qu'y pouvons-nous donc faire? Il sourit aussi et baissa la tête avec l'air pensif qui lui était habituel, comme s'il écoutait avec attention ce qui se passait dans son âme. Tout était tranquille, hormis l'eau qui parlait de quelque chose, en murmurant et en bruissant. De temps en temps, il semblait que ce bruit s'apaisait et allait s'éteindre tout à fait, mais immédiatement il s'accentuait de nouveau et recommençait à résonner sans fin, sans répit. L'épais et obscur feuillage du merisier à grappes s'agitait. La chanson près de la maison s'était tue, mais en revanche, près de l'étang, le rossignol entamait la sienne. Par ce coup hardi et imprévu et combien doux, la jeune fille avait dispersé le sombre nuage étendu sur le cœur de l'aveugle. Le sentiment né en lui, il ne savait quand, mais affermi et tranquille, et dont, pour ces raisons, il ne se rendait pas compte, se définissait maintenant tout d'un coup dans sa conscience. Il s'accentuait, il remplissait tous les recoins de son cœur. Et comment, en effet, ne s'en est-il pas douté auparavant? Il demeura quelque temps immobile, puis levant la tête, il pressa fortement la petite main d'Évelyne dans la sienne. Il s'étonna que la poignée de main si faible par laquelle elle lui répondait ressemblait si peu à celle d'autrefois. La timide pression de ses petits doigts se faisait à présent sentir jusqu'au fond de son cœur. En dehors de l'ancienne Évelyne, l'amie de son enfance, il devinait à présent en elle encore une autre, une nouvelle jeune fille. Il se souvint de ses pleurs de tout à l'heure. Il se trouva alors fort et puissant, tandis qu'il se la représentait pleurante et faible. Alors, sous l'influence d'une tendresse profonde, il attira vers lui d'une main et se mit à caresser de l'autre ses boucles soyeuses. Et il lui semblait que tout son chagrin disparaissait dans la profondeur de son être, qui n'avait plus ni aspiration ni désir, et que le présent seul existait pour lui. Le rossignol, qui pendant quelques instants avait essayé sa voix, attaqua sa chanson et remplit le jardin de ses trilles effrénées. La jeune fille tressaillit et écarta pudiquement la main de Pierre. « Eh bien, assez, mon ami, » fit-elle en se dégageant de l'étreinte. Il n'insista pas et, l'ayant laissé, respira plein poumon. Il entendait arranger ses cheveux. Son cœur battait à coups puissants, mais égaux et doux. Il sentait que son sang chaud distribuait dans tout son corps une vigueur nouvelle. Lorsqu'au bout d'un instant, elle lui dit de son ton naturel, « Eh bien, à présent, allons rejoindre les invités. » Il écouta avec une attention particulière cette chère voix qui maintenant résonnait à son oreille avec une harmonie inaccoutumée. Les invités et les autres s'étaient rassemblés dans le petit salon. L'aveugle Évelyne manquait seule. Maxime causait avec son vieux camarade. Les jeunes gens étaient assis en silence près des fenêtres ouvertes. Et dans la société dominait cette disposition d'âme calme et spéciale, au fond de laquelle couvent quelques drames dont personne ne se rend clairement compte, mais que tout le monde pressent. Maxime jetait de rapides regards chargés d'anxiété dans la direction de la porte. Madame Popielski, le visage mélancolique et comme d'un coupable, s'efforçait manifestement de paraître une hôtesse attentive et aimable. Seul Popielski, notablement arrondi et comme toujours d'aspect débonnaire, sommeillait en attendant le souper. Quand, sur la terrasse qui menait du jardin dans le petit salon, des pas se firent entendre, tous les yeux se tournèrent de ce côté. Dans la pénombre de la large porte apparut la silhouette d'Évelyne, suivie de l'aveugle qui montait les dernières marches. La jeune fille sentit tous ses regards attentifs fixés sur elle. Cependant, elle ne se troubla point. Elle traversa la pièce de sa démarche égale et habituelle. Un seul moment, ayant rencontré un rapide regard de Maxime, elle sourit imperceptiblement avec une expression de défi et de moquerie dans les yeux. Maxime resta pensif et répondit tout de travers à une question qu'on lui adressait. Madame Popielski examinait avec attention son fils. Le jeune homme suivait la jeune fille sans, à ce qu'il semblait, se rendre bien compte où elle le menait. Quand, sur le pas de la porte, se montrèrent son pâle visage et sa fine silhouette, il s'arrêta tout court, avec hésitation, sur le seuil de cette pièce pleine de lumière et de monde. Mais bientôt il franchit ce seuil et vite, quoique toujours avec le même air mi-distrait, mi-concentré, il s'approcha du piano et en souleva le couvercle. Maintenant, il paraissait avoir oublié où il se trouvait, oublié qu'il y avait des étrangers dans la pièce, et instinctivement, il s'était porté vers son instrument favori pour donner issue au sentiment qui l'étreignait. Après avoir soulevé le couvercle, il toucha légèrement le clavier et plaqua quelques accords légers et rapides. Il semblait demander quelque chose, soit à l'instrument, soit à sa propre inspiration. Puis, les mains étendues sur le clavier, il tomba dans une méditation profonde, et dans le petit salon, un silence s'établit. La nuit regardait à travers les ouvertures noires des fenêtres. Par-ci par-là, des branches vertes du jardin, éclairées par la lumière de la lampe, semblaient jeter des coups d'œil curieux. Les invités, préparés par les accords confus du piano qui venaient de se taire, en partie saisis par l'étrange inspiration que reflétait le vaste visage de l'aveugle, étaient assis dans une attente muette. Et Pierre se taisait toujours. Ses yeux levés vers le plafond, il semblait toujours écouter quelque chose avec attention. Les sensations les plus diverses s'agitaient dans son âme comme des vagues fortement secouées. L'afflux d'une vie inconnue le soulevait comme le flot montant soulève une nacelle longtemps paisible sur le sable de la grève. Sur ses traits étaient peints l'étonnement, l'interrogation et encore une excitation particulière qui glissait sur son visage sous forme d'ombre rapide. Les yeux de l'aveugle s'élargissaient, brillaient et s'éteignaient tour à tour. Et un instant, on put croire qu'il ne trouvait pas dans son âme ce qu'il écoutait avec une attention si avide. Mais enfin, quoique toujours avec le même air étonné et comme si ce qu'il attendait n'était point venu, il tressaillit, toucha le clavier et, emporté par une nouvelle vague de sentiments dont il était débordé, il s'abandonna tout entier à une délicieuse rêverie dont les accords sonores et majestueux tintaient, chantaient, roulaient des grondements. Il y avait là tout ce qui se pressait dans ses souvenirs quand, tout à l'heure, silencieuse et la tête baissée, il écoutait avec attention les impressions du passé qu'il venait de traverser. Il y avait là les voix de la nature, le bruit du vent, le murmure de la forêt, le clapotement de l'eau, les paroles confuses qui se perdent dans le vague lointain. Tout cela s'entrecroisait, résonnait sur le fond de cette sensation particulière et profonde qui dilate le cœur et qu'évoque dans l'âme le mystérieux langage de la nature, de cette sensation si difficile à définir. L'angoisse, mais pourquoi est-elle si douce? La joie, mais pourquoi donc est-elle si profondément, si infiniment triste? Et tout cela vibrait sous les doigts de l'aveugle, d'abord doucement, avec hésitation, d'une manière indécise. Il semblait que l'imagination de l'artiste essayait, sans y parvenir, de se soulever au-dessus de cet afflux chaotique d'impressions. Puissant mais isolé, fort mais confusément indéfini, ces souffles de la nature grandiose et indifférente, qui pour cette raison n'arrivaient seulement qu'à faire languir l'âme, possédaient complètement le musicien et il ne pouvait pas s'en rendre maître. De temps en temps, les sons s'accentuaient, grandissaient et devenaient plus forts. Il semblait que d'un moment à l'autre, il allait, en quelques accords énergiques, les fondre tous dans un ensemble de belles et puissantes harmonies. En ce moment-là, les auditeurs suspendaient leur haleine, et Maxime se demandait avec étonnement où l'aveugle avait acquis cette plénitude de sensations. Mais ce torrent, avant d'avoir eu le temps de se lever, retombait tout à coup avec une sorte de grondement plaintif, comme une vague qui s'éparpille en perles écumeuses, et longtemps résonnait de plus en plus faible des notes interrogatives de perplexité amère. Pietrusaya se taisait pour un instant, et de nouveau régnait dans le petit salon un silence interrompu seulement par le murmure du feuillage dans le jardin. L'enchantement qui quelques instants avant avait ravi les auditeurs et les avait emportés quelque part, fort loin, au-delà de ces modestes murs, cet enchantement se rompait, et le petit salon semblait se resserrer autour d'eux, et la nuit se remettait à les regarder à travers les fenêtres ouvertes, jusqu'à ce que, après avoir rassemblé ses forces, le musicien frappa de nouveau le clavier de l'instrument. Et bientôt, les sons naissaient de nouveau, s'en allaient à la recherche d'on ne savait quoi, éclataient dans toute leur ampleur, plus haut, plus fort. La basse continue, l'harmonie des accords s'entrelaçait avec la mélodie merveilleuse d'une chanson populaire, où résonnait tantôt la tendresse et la mélancolie, tantôt le souvenir des souffrances et des gloires passées, tantôt la jolie ivresse de la joie ou de l'espérance. L'aveugle essayait d'épancher ses sentiments dans des formes toutes prêtes et bien connues de lui. Mais la chanson, elle aussi, s'éteignit en frémissant dans le silence du petit salon sur la même note plaintive d'une question irrésolue. À la troisième reprise, il attaqua un morceau qu'il avait appris autrefois d'après la musique. Peut-être espérait-il mettre son sentiment nouveau et personnel en harmonie avec la force créatrice propre au génie de l'auteur. Apprendre les notes est en général une chose très difficile pour un aveugle. Elles sont imprimées, ainsi que les autres caractères en relief, de telle sorte que les notes différentes sont désignées par des signes spéciaux et disposées sur une seule rangée, comme les lignes d'un livre. Pour exprimer diverses notes réunies en un seul accord, on place entre elles des points d'exclamation. On comprend qu'un aveugle doive les apprendre par cœur et de plus séparément pour chaque main. C'est donc un travail très difficile et des plus compliqués. Cependant, Pierre avait été, dans cette occurrence, comme toujours, grandement stimulé par le plaisir que lui procurait le résultat de ce travail. Après avoir appris par cœur plusieurs accords pour chaque main, il se mettait au piano. Et quand, grâce à la réunion de ces hiéroglyphes en relief, se formaient des accords bien coordonnés, tout à coup, et sans qu'il s'y attendît lui-même, il en éprouvait une telle joie, il y prenait un si vif intérêt, qu'il oubliait sa peine et s'adonnait même avec ardeur à cette besogne ardue. Néanmoins, entre le morceau ainsi figuré sur le papier et son exécution, que d'étapes intermédiaires! Avant que le signe puisse se transformer en une mélodie, il devait passer par les doigts, se graver dans la mémoire, puis revenir aux extrémités des doigts qu'il exécutait. Et pendant ce temps, l'imagination artistique de l'aveugle, très fortement développée et déjà capable de créer des formes originales, prenait part au travail compliqué de l'apprentissage et donnait à la pièce étrangère un cachet personnel bien marqué. Les formes dans lesquelles se moulait le sentiment musical de Pierre étaient justement celles sous lesquelles la mélodie lui était apparue pour la première fois et auxquelles l'avait façonné le jeu de sa mère. C'étaient les formes de la musique populaire qui résonnaient continuellement dans son âme et qu'empruntait pour lui parler la nature natale. Et maintenant, quand il jouait cette pièce, le cœur palpitant et l'âme trop pleine, dès les premières phrases du chant mélodique, on pouvait déjà remarquer dans son jeu quelque chose de si éclatant, de si vif et en même temps de si original, que longtemps le visage des auditeurs exprima tout à la fois le transport et l'étonnement. Cependant, au bout de quelques minutes, tout l'auditoire retomba sous le charme. Seul le fils aîné de Stravutchenko, un musicien de profession, écoutait avec attention, essayant de reconnaître le morceau et analysant la manière particulière du pianiste. La musique plane au-dessus des parties, elle réunit toutes les opinions. Les yeux des jeunes gens brillaient d'animation, leurs visages s'illuminaient. Dans leur esprit naissait l'aventureuse pensée d'avenir et de bonheur inconnu. Les yeux de l'oncle Maxime, le vieux sceptique, étincelaient aussi. Tout d'abord, le père Stravouchenko était assis, la tête penchée, et écoutait silencieusement. Puis il commença à s'animer de plus en plus, et enfin il poussa Maxime du coude en chuchotant. « Oh, voilà un qui joue bien, on peut dire fort bien, ma foi !» À mesure que les sons grandissaient, il se rappelait sans doute quelques souvenirs de sa jeunesse, car ses yeux s'illuminaient, son visage se colorait. Il se dressa tout debout, et levant le poing, voulut même donner un coup sur la table, mais il se retint et abaissa son bras sans aucun bruit. Après avoir enveloppé ses fils d'un regard rapide, il caressa ses moustaches, et se penchant vers Maxime, il lui dit « Ils veulent reviser les vieillards aux archives, que nenni ! De notre temps, mes petits, nous autres aussi, et même à présent encore, est-ce vrai ou non ?» Madame Mikhailovna regardait Evelyne d'un air d'interrogatoire. La jeune fille avait posé son ouvrage sur ses genoux et contemplait le musicien aveugle, mais ses yeux bleus ne reflétaient qu'une attention enchantée. Elle comprenait ses sons à sa manière. Elle semblait y retrouver le doux clapotement de l'eau dans les vieilles écluses et le murmure du merisier dans les sombres allées. Mais le visage de l'aveugle n'exprimait pas ce transport qui s'était emparé de ses auditeurs. Il était évident que le dernier morceau non plus ne lui procurait pas la satisfaction qu'il cherchait. Les notes finales trahirent encore une question confuse, un mécontentement, une plainte. Ayant jeté un coup d'œil sur le visage de son fils, la mère y lit une expression qui ne lui parut pas inconnue. Dans sa mémoire, se dressa une journée ensoleillée d'un printemps d'autrefois, quand son enfant était couché au bord de la rivière, écrasé sous les impressions trop vives de la nature printanière qui l'excitait. Mais à présent, cette expression ne fit que glisser sur le visage de Pierre. Une voix bruyante s'éleva dans le salon. « Stravouchenko, père !» éteignit le jeune musicien dans ses bras. « Tu joues parfaitement bien, mon garçon. Oh, devant Dieu, tu joues très bien !» Les jeunes gens, encore tout émus et transportés, lui serraient les mains avec effusion. L'étudiant lui prédisait une large et brillante célébrité artistique. « Oui, c'est vrai !» confirma le frère aîné. « Oh, vous avez réussi à vous assimiler merveilleusement le caractère même de la mélodie populaire !» Vous l'avez faite vôtre et la possédez complètement. Mais dites-moi, je vous prie, quel morceau vous avez-vous joué en dernier lieu ? Pierre nomma une composition italienne. Oh, c'est ce que je pensais, répondit le jeune homme. Je la connais un peu. Oh, mais vous avez une manière étonnamment originale. D'autres la jouent mieux que vous, peut-être, mais personne encore ne l'a exécutée comme vous l'avez fait. « Et pourquoi donc penses-tu que les autres la jouent mieux ?» lui demanda son frère. « Ben vois-tu, j'en ai entendu l'exécution conforme à l'original, tandis que ceci, c'est comme une traduction libre de la langue musicale, italienne en petit russien. » L'aveugle écoutait avec attention. C'était la première fois qu'il était devenu l'objet de conversations animées, et dans son âme commençait à germer la conscience de sa force. Il pouvait donc, lui aussi, faire quelque chose dans la vie. Il était assis sur sa chaise, la main étendue sur le pupitre, et au milieu du bruit des voix, il sentit sur cette main un tiède attouchement. C'était Evelyne qui s'était approchée de lui et lui pressant imperceptiblement les doigts, murmurait avec une joyeuse excitation « Mais tu as entendu, toi aussi tu auras ton œuvre à toi. Oh, si tu voyais l'effet que tu peux produire grâce à ton jeu !» L'aveugle tressaillit et se redressa. Personne ne remarqua cette courte scène excepté la mère. Son visage s'embrasa de vives couleurs comme au premier baiser d'un fiancé épris. L'aveugle était toujours à la même place, immobile et pâle. Il luttait contre les impressions du nouveau bonheur qui l'envahissait, et peut-être pressentait-il aussi l'approche d'un orage qui se levait déjà sous l'aspect d'un lourd nuage sans forme des profondeurs de son cerveau.